Radio Grand Ciel présente Ensemble, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Paolo Davi. Au micro, Christiane Blain. C'est avec bonheur que je reçois le président des Amis de La Ferté-Vidame qui vient nous présenter la fête des livres qui aura lieu le 6 septembre. Jean-François Beige, bonjour.
Bonjour Christiane.
Vous êtes adjoint au maire chargé de la culture et vous avez voulu faire revivre cette maison de Saint-Simon. Une grande date, le 6 septembre, puisqu'aura lieu à La Ferté-Vidame l'inauguration de la maison Saint-Simon et également la fête des livres. Alors, j'aimerais bien que vous évoquiez pour nos auditeurs Saint-Simon. Bien sûr, à La Ferté-Vidame, on le connaît très bien, mais peut-être que nos étudiants, nos élèves ne le connaissent pas forcément. Alors, rafraîchissez-nous la mémoire.
Oui, avant, on apprenait au lycée, on apprenait les talents du mémorialiste et notamment ces fameux portraits. Je me souviens avoir appris au lycée le portrait de l'abbé Dubois. Mais c'est de plus en plus rare. Et puis, il y a beaucoup de professeurs qui ne l'aiment pas. Ils ne l'aiment pas parce qu'ils trouvent que c'était un petit noble prétentieux, revanchard, un peu hargneux qui passait. Et c'est tout à fait faux. Saint-Simon, c'était surtout quelqu'un qui était plus porté sur l'observation, la réflexion que sur l'action. C'est-à-dire, il n'a pas été un grand politique, il n'a pas été un grand militaire, il a fait tout son devoir chez les mousquetaires lorsqu'il était jeune, mais il était d'une constitution un peu chétive, et surtout, il aimait observer, recueillir de l'information, et il écrivait tout ça le soir à Versailles d'abord, puis pendant de longues périodes de vacances à La Ferté-Vidame. C'est pour ça que c'est devenu le grand homme de La Ferté-Vidame.
Ces dates à peu près, pour que tout le monde le situe
bien. Il est né en 1635, enfin il est mort en 1755. C'est surtout cette date de la mort qu'il faut retenir. Ça permet de voir qu'il est contemporain de Montesquieu. Et il est né il est né en 1675 et il est mort en 1755. Et donc, il a vécu une période importante. Il a vécu les 22 dernières années du règne de Louis XIV. Parce que le règne de Louis XIV a été tellement grand qu'on pouvait pas, dans une vie d'homme, on pouvait pas tout suivre. Donc, il a connu surtout les dernières années, les années de Madame de Maintenon. Et il a écrit des pages inoubliables sur Madame de Maintenon. Et il a surtout connu, après, la régence. Parce qu'il avait pour caractéristique d'être l'ami d'enfance du régent Philippe d'Orléans, cousin du roi, qui a été appelé à régner, puisque l'arrière-petit-fils, le futur Louis XV de Louis XIV, était trop jeune pour régner à la mort de Louis XIV en 1715. Donc quand le régent est arrivé au pouvoir, comme on dit, il a eu une période, une très belle embellie. On a cru qu'il allait exercer un rôle politique. Non, en fait, il a beaucoup suggéré, il a donné beaucoup d'idées aux régents, mais en réalité, son plaisir, c'était de tout voir, tout noter, et surtout de noter les jeux de pouvoir des courtisans. C'est pour ça que c'est cet ensemble de mémoires qui est quelque chose de considérable, puisqu'il c'est plus de 7000 pages. Aujourd'hui, il est rare, quelle que soit
c'est
l'édition,
un monument.
On peut pas publier cela en moins de 10 volumes, donc 10 gros volumes. Donc c'est quelque chose d'important, mais c'est pas, il faut pas le lire bout à bout, il faut prendre des passages. Et donc, ce que nous avons essayé de faire avec cette maison Saint-Simon, c'est de le rendre un peu familier, de montrer que ce n'est pas du tout une littérature, c'est une littérature très originale, puisqu'on, la plupart des grands écrivains, Chateaubriand, Proust, Solers, plus près de nous.
Enfin, oui, sont des qui grands... est venu à La Ferté-Vidame.
Oui, et... qui a reçu le prix Saint-Simon. Oui. Ce sont des grands admirateurs de Saint-Simon. Jean d'Ormesson aussi, qui était un grand admirateur de
Qu'on
Saint-Simon.
A eu la chance de le voir aussi. Oui.
Et donc, tous ces grands écrivains ne se trompent pas. Ils savent que c'est quelqu'un qui a inventé un style, qui a inventé une syntaxe, qui a inventé une façon d'écrire tout à fait originale. Et c'est très intéressant aujourd'hui, où le français manque un peu de racines, puisque la culture gréco-latine s'est perdue. C'est très intéressant de lire des auteurs comme Saint-Simon, parce que on voit toute l'armature de notre langue, toute la beauté de notre langue. Et c'est aussi agréable à lire, parce que c'est aussi, on le dit jamais, mais c'est aussi un écrivain un peu facétieux, qui fait des portraits très nuancés, qui manie, c'est le plus grand artiste de la rosserie, de la vachardise.
il ne se gênait pas, hein, vraiment.
Non, parce qu'en plus,
tout
ce qu'il a écrit, c'était conservé dans des portefeuilles en cuir qui ont été ensuite mis dans une armoire de fer. Enfin, il voulait pas que ce soit diffusé. Il avait prévu que ce serait diffusé 100 ans après sa mort, mais le manuscrit s'est un peu baladé. Et surtout, il y a eu beaucoup de gens sous Louis XV et sous Louis XVI qui essayaient de savoir ce qu'il y avait dedans, parce qu'on a un peu surestimé aussi. On a cru que c'était des grands secrets d'État. En fait, non. C'était surtout des chroniques de cour. Très intéressantes.
Et alors, justement, quand vous avez créé ce prix Saint-Simon, il y a combien de temps ?
Alors, ça a été créé par Jacques Dussutour et Georges Poisson, enfin des gens qui sont toujours parmi nous, c'est ce qui est merveilleux, et qui seront là le 6 septembre. Ils ont créé le prix Saint-Simon en 1975, qui récompense chaque année un mémorialiste, c'est-à-dire l'auteur d'un livre de mémoire. Alors, ça, c'est très vaste, le champ des mémoires. Hein. Ça va aussi bien de l'amiral de Gaulle à Philippe Solers, en passant par Bernard-Henri Lévy, et toutes sortes de gens au travers de l'histoire, comme Jean Marin, comme Michel Jobert, comme, etc. Donc, c'est une très, très belle galerie. L'ambassadeur Claude Martin, qui
remarquable.
A été remarquable ambassadeur de France, peu connu du grand public, mais qui a
quand
fait
on
un
lit
livre,
son livre, c'est
1000 pages.
Remarquable, on lit très vite.
Et tout à fait dans l'esprit de Saint-Simon.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que ça a été écrit, ce que j'appellerais écrit avec des petits carnets. L'expression est de Claude Martin lui-même. Ouais. Il dit, on a toujours un petit carnet dans la poche et on note quelque chose tous les jours. Et Saint-Simon a fait ça depuis son plus jeune âge. Claude Martin avait lu quelque part que Saint-Simon avait fait ça, et il a fait ça toute sa vie aussi. Ça donne un livre fabuleux. Oui. La diplomatie n'est pas un
dîner. Vraiment, moi je l'ai beaucoup conseillé, parce que quand on veut vraiment un peu connaître.
Surtout sur les coulisses de l'histoire européenne et de la Chine, parce que Claude Martin, c'est le grand spécialiste de la Chine.
Mais il était ambassadeur.
Il a eu les deux plus grandes ambassades, les plus sensibles politiquement. Non, parce qu'il n'a pas eu Washington, mais il a eu Pékin et Berlin, c'est-à-dire Berlin après la chute du mur et Pékin au moment de Tiananmen.
C'est pour ça que prix Saint-Simon, c'est merveilleux, parce que ça permet aux percherons de connaître vraiment
de recevoir des acteurs de l'histoire. On n'en trouve pas tous les ans. C'est un peu inégal, mais chaque fois que je pense que le jury est assez. C'est un jury assez prestigieux.
Oui, alors peut-être on peut dire.
Il y a trois académiciens, Gabriel Debreuil, qui n'est plus président du jury, mais qui est toujours membre du jury. Monsieur Marc Lambron, qui est un académicien anticonformiste, puisqu'il a rejoint l'équipe des grosses têtes sur RTL, est un personnage très drôle, et Narc, écrivain, auteur, journaliste, un personnage très pittoresque. Et Daniel Rondeau, qui est un aventurier, un homme qui a vécu à une sorte de Kessel moderne, qui a vécu dans plusieurs pays, qui a été ambassadeur. Alors, c'est trois parmi d'autres, mais on a un jury très prestigieux.
Oui, une ancienne.
Et cette année, ils n'ont pas voulu siéger, parce que ils considéraient que c'était difficile. Ils voulaient siéger à l'Académie, parce que la tradition, c'est de siéger à l'Académie. Et l'Académie a été fermée. Ça n'a pas été beaucoup dit dans les journaux, mais... L'Académie, comme tout l'Institut de France, a été fermée pendant la période du confinement et au-delà, puisque je pense qu'ils nous rouvriront leurs portes, si tout va bien, qu'au mois d'octobre.
Ah oui. Et sinon, vous aviez trouvé la personne à inviter cette
Alors,
année ?
Pas du tout, pas non. du tout. On pourrait faire du name dropping, comme ne dirait pas Saint-Simon.
Non.
mais non, on peut pas dire, on sait pas. On sait pas du tout qui aurait été distingué cette année.
Et alors, ceux qui sont venus, justement, parce qu'ils avaient été, ils ont eu le prix Saint-Simon, je me suis toujours demandé s'ils avaient relu les mémoires de Saint-Simon.
Ah oui.
Ça, c'est une question que je me suis posée. Est-ce que, parce que c'est quand même un gros travail de relire.
Moi, je suis un peu la petite main dans l'affaire, comme je suis le régional de l'État, puis je m'occupe de l'organisation.
Oui, le régional, donc, vous êtes le président.
Alors, en général, ils s'adressent à moi quand ils sont reçus. Et puis, ils me disent, faut-il relire les mémoires de Saint-Simon? Enfin, même pas, ils me le disent pas. Ils disent, alors j'ai dit, vous avez du temps. Vous avez du temps parce que, en général, le lauréat est connu au mois de début juin, et puis le prix est remis en septembre. Donc, ça fait un trimestre. Et je leur dis en général, si vous voulez relire, ne relisez pas tout, mais relisez des extraits. En général, il vaut mieux parler de dire relire parce que. C'est quand même étonnant de voir le nombre de gens qui ont lu Saint-Simon au moins une fois. C'est un peu comme Proust.
D'ailleurs, Proust, on lit plus facilement.
Voilà. On ne dit pas « j'ai lu Proust », on dit « j'ai relu Proust ».
Oui, mais quand même, c'est plus facile. D'abord, ça existe en livre de poche, Proust.
Oui. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de liens, et j'espère qu'on va les approfondir sans arrêt entre... Parce que Proust était un admirateur...
Un grand admirateur de Saint-Simon.
Un peu critique, d'ailleurs. J'ai relisé un passage l'autre jour sur Lauzun.
Ça serait intéressant d'une confrontation.
Oui, alors ça a été fait par la Société Saint-Simon. On fait beaucoup de travaux sur Proust. Mais c'est vrai qu'on pourrait le refaire.
Oui.
J'aurais aimé que, quand on a fait, c'est l'an dernier, on a fait le centenaire Proust dans le département. On associe la Ferté-Vidame parce que c'était, ça me paraît évident. Puis, d'autant que Proust avait fait, s'était amusé à faire un pastiche de romans policiers à la manière de Saint-Simon.
Ah oui.
Parce que finalement, le style de Saint-Simon, quand on l'étudie, c'est de la technique littéraire. En fait, on s'aperçoit qu'on peut tout le temps l'actualiser. On peut faire un récit policier. Et on a souvent fait des récits politiques. Le plus bel exemple, c'était sous la période du général de Gaulle et de Pompidou. Mmh. Il y avait une chronique du Canard enchaîné, très célèbre, qui s'appelait « La cour », suivie de la Régence, et qui parlait de Gaulle et de l'Élysée sous de Gaulle à la manière de Saint-Simon, et ça avait un succès fou.
Ah oui.
C'était André Ribaud qui alias Monsieur Fressoz, et qui faisait ça très très bien. Puis plus près de nous, il y a quelqu'un qui a fait aussi un beau succès en librairie en faisant aussi encore du Saint-Simon à propos de Sarkozy. C'est la chronique de Nicolas Ier, je crois, d'un monsieur qui s'appelle Rambaud.
Voilà. Oui. Donc, on se dit qu'il va y avoir encore des ouvrages à propos de Saint-Simon. Et maintenant, donc, il y a une maison qui lui est consacrée. C'est bien ça.
Alors oui, cette maison, il ne faut pas que ça effraie. C'est une maison qui est faite de façon ludique, pédagogique. On n'est pas du tout obligé de lire Saint-Simon pour aller la voir, parce que justement c'est fait pour donner envie de lire, et puis surtout pour dire à peu près ce qu'on va trouver. Donc on parle de la Régence, on parle du règne de
Louis
XIV.
Mais vous-même, vous n'avez pas eu envie d'écrire un ouvrage sur Saint-Simon?
Ah,
parce que
oui.
Vous écrivez fort bien.
Non, mais
et j'attends toujours cet ouvrage
j'ai un
qui
projet.
Permettrait.
Oh non, mais ça sera un divertissement, un peu de genre policier. Mais
oui,
avec
mais j'attends. Mais, voilà, c'est ce que vous m'aviez dit, un roman policier. Mais j'aimerais.
Je parle toujours trop, ma femme. Mais non. Elle va me dire, tu annonces des choses et puis tu les fais pas.
Si, parce que voilà, à chaque fois je vous en reparle, j'espère que ce sera fait.
Mais j'espère qu'un jour. Je voulais le faire pour l'inauguration du musée, puis j'ai été pris par mille et une choses. Puis ça a été compliqué, ce musée. ce musée, j'ai tort de parler de musée. Parce que
jusque-là, moi, je disais maison.
Oui, mais c'est une maison, c'est-à-dire que c'est destiné, si tout va bien, à rejoindre le réseau des maisons des illustres, la maison de Victor Hugo, la maison de Clémenceau, la maison... Il y a maintenant tout un tourisme de visites de maisons. Alors nous, la partie, on va avoir peut-être du mal à intégrer ce réseau, mais on va plaider notre cause. C'est pas vraiment le cabinet de travail de Saint-Simon. On l'a reconstitué. Parce que il reste rien du château de Saint-Simon.
Si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Jean-François Beige, qui est le président des Amis de La Ferté-Vidame et qui vient présenter la fête des livres qui aura lieu le 6 septembre. Alors Jean-François Beige, dans une première partie, vous avez évoqué Saint-Simon et nous attendons votre ouvrage sur Saint-Simon. Et maintenant, j'aimerais bien savoir comment nous pourrons visiter cette maison. Comment est-elle? Quels ont été les travaux que vous avez dû faire? Comment ça s'est passé?
Alors, il y avait, au moment du prix Saint-Simon, en 1975, on avait quand même créé un petit musée. Et il faut rendre hommage à ceux qui l'avaient fait, notamment Georges Poisson, à l'initiative de Jacques Dussutour, Colette Lenoc, Sylvie Latouche, des personnes de notre commune qui avaient fait un musée très simple, mais qui avait l'avantage de donner des dates, etc., de fixer des points de repère chronologiques. Et puis, il a fallu faire des travaux. Vous savez qu'il y a une partie du château qui a été rachetée par M. de Laborde, qui a été détruite, une partie prise par Citroën, une autre partie qui a servi de commun du château et qui est actuellement fermée, mais que nous allons restaurer. Et nous avions qu'un petit pavillon à l'entrée dans lequel on pouvait installer un musée. Mais on avait une grosse contrainte de place.
Oui, c'est pas grand.
Et alors, ça a été initialement, mais ça remonte à peu près 10 ans. Il faut 10 ans pour faire un projet comme ça en France, même si les locaux sont petits. On a fait appel à des scénographes. Et le pari était difficile parce qu'on disait, il faut qu'on sache tout de Saint-Simon, de la période, du monde dans lequel il a évolué, c'est-à-dire une bonne évocation de Versailles, de la cour, de la Régence. Et puis il faut qu'il y ait des systèmes didactiques qui montrent bien ce que l'on apprend par les mémoires, notamment les systèmes de pouvoir. Par exemple, il faut qu'il y ait des petits jeux qui permettent de demander comment parler au roi. Donc en passant par, alors on fait des choix comme ça, on passe par un ecclésiastique, ou on passe par une duchesse, on passe... Et donc ça c'est très amusant pour les enfants, c'est-à-dire des jeux de courtisans. Donc c'est amusant pour les enfants, parce que finalement les systèmes de pouvoir, c'est de toutes les époques, que ce soit
avec des façons différentes,
etc. C'est très intéressant, c'est pédagogique, c'est-à-dire, parce que Saint-Simon c'est... l'homme qui a décrit le mieux les systèmes de pouvoir en France. Et donc, les courtisans, les malchanceux...
Alors, c'est vous qui dirigiez tout ça pour...
Non, pas du tout. Moi, j'ai été plutôt... j'ai poussé pour qu'on n'abandonne jamais le projet, localement, mais moi, je suis un bénévole sur place. Et donc, j'avais pas de rôle à mener, à part mon rôle de président de l'association.
Et adjoint au maire.
Voilà, maintenant. Mais avant, donc, on a poussé d'abord la communauté de communes. On n'a pas été aidé parce qu'il y a eu une réforme institutionnelle. La communauté de communes de Loret-du-Perche a fusionné avec la communauté de communes des Forêts-du-Perche. Donc on a changé de tutelle. Il a toujours été convenu que le projet serait financé par une communauté de communes. Donc c'est la communauté de communes des Forêts-du-Perche qui a hérité de ce dossier. C'était pas forcément leur priorité, mais on a dit oui, mais c'est un atout touristique. Si on arrive arrive à faire une circulation de personnes autour d'un patrimoine historique tel que Saint-Simon, ça sera bénéfique pour toute la région. Alors, Monsieur Xavier Nicolas nous a parfaitement appuyé, Madame Lorrain, qui était maire de Digny. On a eu quand même beaucoup de soutien dans les communes des environs, parce que ça a été financé en très grande partie. Il y a eu des aides du conseil départemental. Le conseil départemental a fourni les locaux, puisque le pavillon est une propriété départementale. C'est déjà énorme. Et fourni les locaux. Et la scénographie de monsieur Nicolas Lauriette, qui est un historien qui a beaucoup travaillé. C'est lui qui a travaillé sur le centre d'interprétation de la Renaissance du château d'Annette.
Ah, oui.
Donc c'est un historien qui a vraiment l'art de faire des projets didactiques, amusants. Il est relativement jeune, il a 40 ans.
Ah,
donc
oui.
C'était très agréable de travailler avec lui. Et il s'est...
Il connaissait un peu Saint-Simon ?
Oui, il connaissait un peu, mais je peux vous assurer avec quelques amis à moi en plus, on lui a fait une pédagogie accélérée et surtout on l'a mis en relation avec la société Saint-Simon, qui est une docte société qui siège à Versailles, et nous avons une nouvelle génération.
Vous faites partie de cette société?
Oui, mais moi je suis pas un grand. Moi j'essaye d'être de faire avancer les dossiers, et donc la société Saint-Simon a dans ses rangs deux jeunes historiens, enfin historiens de la littérature, c'est-à-dire à la fois des profs de lettres et d'histoire. Et c'est notamment messieurs François Ravier et Marc Hersan. Ils seront là le 6 septembre d'ailleurs, je suis très content. C'est la nouvelle génération. Vous savez qu'on a eu la chance à Ferté-Vidame d'avoir des biographes de Saint-Simon comme Georges Poisson ou François Formel. Je pense que Georges Poisson sera là, mais il est aujourd'hui un peu âgé. Il est très attaché, mais il sera peut-être là. Mais il y a une nouvelle génération, c'est des gens qui ont, comme Nicolas Lauriette, François Ravier, c'est des gens qui ont 40 ans.
Ça, c'est merveilleux pour Saint-Simon.
Qui sont de jeunes universitaires, en plus, ce sont des gens qui ont tous les titres, tous les grades de notre université. C'est-à-dire qu'ils sont incontestables, on ne peut pas... ce ne sont pas des érudits d'opérette.
Ouais.
Donc, ils travaillent très sérieusement. Et donc, ça, on a beaucoup de chance d'avoir ce renouvellement de génération. Preuve, ce n'est pas évident pour tout le monde, il y a des gens qui pensent le contraire, preuve que Saint-Simon est toujours intéressant pour le public d'aujourd'hui.
Oui, parce qu'à la Ferté-Vidame, il y a, on peut dire, deux châteaux.
Oui.
Alors, parlez-nous un peu, puisque c'est Saint-Simon, du grand château, qui est maintenant en ruine.
Oui.
Alors,
le grand château avait été le château de la famille Saint-Simon, en ce sens qu'il avait été, la propriété du duc Claude, le père du mémorialiste. Mmh. Et le duc Claude était un très proche, un confident de Louis XIII. Et c'est Louis XIII qui l'avait fait duc. Donc c'est pour ça que Saint-Simon eut quelques problèmes à la cour. C'était un duc récent. Il était duc par la faveur royale de Louis XIII. Mais enfin, tous les ducs, tous les princes ont toujours été plus ou moins, soit par le sang, soit par la faveur royale, ont été ducs, ont été anoblis à un moment. Donc Saint-Simon avait hérité de ce château féodal qu'il avait amélioré beaucoup.
Vraiment.
La famille avait fait des fenêtres, etc. Et puis ce château a été racheté. Saint-Simon, comme Chateaubriand, c'est pas...
C'est le, Combourg,
il,
oui.
est, il est mort dans la misère, et donc pratiquement dans la misère. Et c'est sa petite fille, Madame de Valentinois, qui a vendu le château à un financier aventurier, très, très riche, confident du duc de Choiseul, sous Louis XV, qui a rasé le château féodal des Saint-Simon, a gardé les fondations, et a reconstruit un très beau château. Malheureusement, ce château, qui avait été ensuite dans la famille royale, j'abrège un peu, avait été donné au Bourbon Penthièvre. Ce château a été classé bien national pendant la Révolution, et en 1793, il a été acheté par des spéculateurs qui l'ont complètement démoli. Ouais. Il était facile à démolir parce qu'il était très neuf, très moderne, très et donc très très richement meublé. Et donc, c'était facile d'enlever les très belles cheminées. Il y a eu un pillage éhonté. Et donc, il est resté à l'état de ruine jusqu'à ce que Louis-Philippe, qui en était l'héritier légitime dans son domaine privé, par les Penthièvre puis les Orléans, il en était l'héritier. Il a voulu le restaurer. Il est venu. Il a restauré ce qu'on appelle le petit château, c'est-à-dire les anciennes écuries. Il en avait fait une demeure royale pendant quelque temps. Et puis est arrivée la révolution de 1848, la fin de la monarchie de Juillet. Et Louis-Philippe est parti pour l'exil sans avoir pu restaurer le grand château. Parce que le grand château est resté à l'état de ruine. Mais nous avons toujours le petit château. Et...
Quand même, le grand château, on peut le voir.
Oui.
Et quand on arrive le soir, on n'a pas l'impression que c'est une ruine. Parce que ça a été très bien...
J'aimerais bien qu'on fasse, vous savez, comme on fait maintenant, comme Chartres en lumière,
oui, c'est ça.
Ce qu'on appelle le mapping, c'est-à-dire des diapositives qui permettent de montrer les lieux tels qu'ils étaient.
Oui, et ça, je pense que c'est assez facile.
C'est curieusement.
Parce qu'on voit ça maintenant presque dans toutes les villes,
oui.
Avec même des couleurs absolument, du bruit, enfin.
Voilà, ben justement, nous, on nous dit que comme les caves, qui sont toujours les caves de l'époque Saint-Simon, puisque Laborde a construit au-dessus des caves du château, les caves abritent des espèces rares de chauves-souris. Il ne faut pas perturber par trop de lumière et trop de bruit. Voilà. Donc, je pense qu'on va arriver à faire quelque chose, si on arrive à trouver les crédits nécessaires, avec une application de téléphone qui permettrait de ne pas faire trop de bruit.
Ah oui.
Mais il y aurait toujours le problème de la lumière. Mais bon, il est déjà éclairé, hein, le château, la nuit.
Donc, déjà, quand on arrive à la fête des Vidames, on voit cette merveille. Plus le petit château. Et donc maintenant, et c'est pour cela que, chers amis auditeurs, il faudra absolument venir le 6 septembre, puisqu'il y aura des spectacles. Alors, dans vos projets pour cette date, il y aura donc...
Alors, le matin, nous allons inaugurer la maison Saint-Simon. Inauguration un peu classique, mais il s'agit de remercier toutes les personnes toutes les personnes qui nous ont aidés, parce que c'est vraiment un financement en grande partie intercommunal, et donc il faut remercier tout le monde. Donc on va faire une cérémonie d'inauguration, et puis à partir de 14h, on va faire une fête des livres classiques, c'est-à-dire avec signature d'écrivains, entrecoupée d'animations, café littéraire. Une visite, parce que le protocole Covid fixe des règles. Alors,
compliqué.
Pour faire signer les ouvrages, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y a déjà eu des salons du livre. On va surtout être respectueux de toutes les consignes. Il n'est pas question des enfants, des masques. Et on va faire. Nos animations vont être sous forme de déambulation, avec des comédiens qui vont évoluer en costume 18e, pour rappeler, il y aura même un figurant qui va jouer Saint-Simon.
Ah, formidable.
J'espère qu'il ne sera pas trop grand, parce que Saint-Simon était petit. Et donc, de toute façon, peu importe.
Donc les horaires ?
Alors les horaires, c'est à partir de 14h. Ceux qui n'auront pas déjeuné ou qui voudront déjeuner peuvent venir un peu avant, il y aura des food trucks, comme ne le disait pas Saint-Simon, une restauration rapide.
Oui.
On ne peut pas faire de repas sur réservation comme les autres années. Et donc, il y aura une possibilité donc, de restauration. Et à partir de 14h, d'assister au café littéraire, aux animations, avec des rendez-vous jeunesse assez amusants, des démonstrations de reliure, de calligraphie.
Et on sait déjà quels sont les auteurs qui viendront ?
Alors les auteurs, il y aura une partie auteurs liés à Saint-Simon, qui ont travaillé sur Saint-Simon, mais des auteurs très contemporains, comme François Ravier. C'est les nouvelles lectures de Saint-Simon. Et puis il y aura... on est en période d'année municipale et de discussion sur le rôle des mairies, il y aura notre ami Pierre Bonte, qui a fait beaucoup d'émissions de radio sur les... Et puis il y aura Alain Chalvron, ancien envoyé spécial, quelques grands reporters.
Eh bien, nous nous réjouissons d'aller à cette fête le 6 septembre, La Ferté-Vidame, pour écouter tous ces auteurs et revivre la vie de Saint-Simon. Merci à vous, Jean-François Belge. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci.
Merci.